À partir de mercredi prochain, 9 février, le cours, je dis bien le cours, pas le séminaire, le cours, c'est-à-dire la séance de 5h30, aura lieu dans la salle 8. La salle 8, à vrai dire, n'est pas beaucoup plus grande que celle-ci, mais elle est plus confortable, disons. Donc, mercredi prochain, salle 8, et non pas ici, salle 6. Comme je l'ai annoncé, petit courrier des auditeurs, sur le roman idiorhythmique, on m'avait signalé les affinités électives de Goethe et un roman de Simone Jacquemart dont je n'avais pas le titre, alors je vous donne le titre aujourd'hui, de ce roman de Simone Jacquemart qui a paru au Seuil en 1967 et qui s'appelle « L'éruption du » suit un nom de volcan compliqué, Krakaloa, K-R-A-K-A-L-O-A, ou des chambres inconnues dans la maison. Une autre observation qu'on m'a faite ce matin, enfin sous forme de fiche, c'est à propos de Robinson et du premier langage, c'est-à-dire de la naissance du langage à travers le tu, c'était l'épisode du perroquet. Alors, je signale simplement cette observation. Vous vous doutez bien que le problème du premier langage est un énorme dossier, et un dossier cependant à peu près vide. Cela dit, peut-être qu'un jour nous en marquerons la place de ce dossier et que nous traiterons. C'est une idée que j'ai eue depuis longtemps, mais à laquelle je n'ai pas osé m'attaquer. Nous traiterons peut-être un jour des mythes de l'origine du langage. Une autre observation concernant le mont Athos, dont je vais continuer à parler. J'ai en effet, paraît-il, fait une erreur d'appréciation. J'ai dit qu'actuellement le mont Athos, enfin les monastères de l'Athos, étaient en décadence. Et j'ai donné comme chiffre qu'en 1912, il y avait 7000 moines. Et en 1972, 1500. Or, on me signale que depuis cette date, il y a un renouveau de la tosse, qu'il y aurait eu 300 moines nouveaux, à vrai dire par des transferts de monastères, et qu'il y aurait un renouveau spirituel. Mais ce renouveau spirituel ne toucherait, à vrai dire, que les cénobias, c'est-à-dire les couvents cénobitiques de vie en commun, et ce qui confirme la thèse qui se profile tout au long de ce cours, à savoir que ce qui est combattu, délaissé, rejeté, marginalisé, c'est toujours l'idiorhythmie. Voilà pour les observations faites. Alors, la dernière fois, je me suis arrêté au moment où j'étais en train de décrire brièvement le fonctionnement de l'idiorhythmie au mont Athos. J'avais fait un petit peu de diachronie. J'étais parti de la fondation du premier monastère cénobitique en 963 jusqu'à aujourd'hui et j'avais marqué cette espèce d'oscillation permanente entre la structure cénobitique et la structure idiorhythmique, structure qui est toujours ambivalente puisque tantôt, d'ailleurs nous allons le voir à l'instant, elle est très ascétique, tantôt elle est très relâchée, tantôt elle est très pauvre, tantôt elle est aisée, confortable, tantôt elle est laborieuse, tantôt elle est oisive. L'idiorhythmie apparaît donc dès maintenant comme un phénomène, je dirais, éthiquement inclassable, peut-être parce que toujours lié d'une façon latente, dans le monde religieux en tout cas, à une expérience mystique. Or, le mystique, c'est l'atopie, le lieu, le sans-lieu, de l'Église comme société. Quelques mots donc toujours sur l'athos, si vous le permettez, sur le mode de vie, qui évidemment, c'est par le mode de vie qu'on atteint directement le problème de l'idiorhythmie. Dans les petites structures idiorhythmiques, le principe, c'est que chaque moine a licence de mener son rythme particulier de vie, c'est la définition étymologique de l'idiorhythmie. Quant au travail, il était, ou il est sur l'athos, inégales, certains idiots rythmiques sont oisifs, d'autres travaillent. Le niveau intellectuel des idiots rythmiques, on dit que c'est un niveau plus élevé que celui des cénobites, qu'il y a plus d'instruction parmi les idiots rythmiques, peut-être parce qu'il y a là comme une réminiscence des écoles philosophiques de l'ancienne Grèce. Quant aux contraintes de vie, qui sont en principe très fortes pour les moines proprement dit, les cénobites, pour les idiots rythmiques, elles sont souples et légères. En matière de liturgie, il n'y a pas de contraintes liturgiques, sauf par exemple pour les jeûnes et les abstinences, certaines tolérances. Et troisièmement, une fois par an, c'est la seule contrainte réelle, à part les liturgies de fête, une fois par an, tous les idiots rythmiques font acte de communauté en prenant un repas ensemble. C'est une très, très ancienne coutume de l'Anachorèse, et je dirais qu'elle est même la coutume du repas pris en commun pour des solitaires, régulièrement. C'est une coutume qui est antérieure, semble-t-il, au christianisme, puisque avant le christianisme, il y a eu des communautés religieuses dans les milieux judaïques, chez les thérapeutes, chez les esséniens, il y avait aussi cette habitude du repas pris en commun régulièrement. Donc, conception souple de la contrainte, disons pas de règles pour les idiots rythmiques au sens monastique du terme, mais des indications. Vient maintenant un problème que nous devons nous poser pour toute communauté idiots rythmique, et que nous nous reposerons d'ailleurs à propos des béguinages, nous allons voir ça bientôt à la lettre B, c'est le problème de la propriété. La propriété. Ici, on retrouve le même balancement, la même ambiguïté, le même revirement, la même non-pertinence. C'est pas alors que pour les structures de vie, quelles qu'elles soient, toute vie en commun, le problème de la propriété est absolument un problème fondateur. Et qui est au premier chef pertinent. Or, pour les idiots rythmiques, le problème ou le statut de la propriété ne semble pas pertinent. En effet, à l'origine, l'idiot rythmie, c'est une sorte d'érémitisme, ce sont des ermites, n'est-ce pas, ou des semi-anachorètes, et par conséquent, ils vivent dans une pauvreté absolue. Nous avons vu déjà, je crois, que les anachorètes égyptiens, autour de, ou à partir d'Antoine, de Saint-Antoine, vivait d'un très petit artisanat de vannerie, juste de quoi acheter le pain. C'était donc la pauvreté totale. Mais à Latos, à la fin du XIVe siècle, il y a eu un relâchement de ce principe de pauvreté. Les structures idiorythmiques se sont étendues par une sorte de laxisme, je l'ai dit, et par conséquent, on a toléré certaines pratiques, et notamment certains cénobites, certains moines conventuels, qui avaient acquis un terrain, ont pu s'en approprier le revenu et vivre à leur gré en marge de la communauté avec le revenu de cette petite propriété. Et puis, il y a eu ensuite un nouveau renversement pour alléger les charges collectives. Chaque moine a été autorisé à s'arranger selon ses moyens, c'est-à-dire soit en profitant de ses revenus s'il avait un petit terrain, soit, si je puis dire, en parasitant un moine aisé et en entrant en quelque sorte à son service. D'où deux catégories d'idiots rythmiques sur Latos. Premièrement, les possédants, les idiots rythmiques qui possèdent quelque chose, qui ont un revenu personnel. Et deuxièmement, ceux qui n'ont rien en propre, qu'on appelle les paramiki, et qui se mettent souvent au service des riches. Donc la structure idiorythmique est une structure non seulement souple, mais même qui, par sa souplesse même, reconstitue en quelque sorte automatiquement la division sociale. C'est-à-dire qu'au bout d'un certain temps, on trouve des riches, ou tout au moins des gens aisés, et des pauvres, dans un rapport de dépendance par rapport aux autres. Il est évident que le laxisme sur le principe de propriété et de pauvreté, c'est un point très sensible de tout monachisme. Et ça souligne une fois de plus ce laxisme quant à la propriété, quant à l'argent, si vous voulez, souligne une fois de plus la marginalité doctrinale de l'idiorythmie. Il y a dans l'idiorythmie une sorte d'indifférence à la morale de pauvreté, une sorte d'indifférence, mettez si vous voulez un tiret entre un et différence, de non-différence, à ce que j'appellerais la loi, la morale anti-argent, et vous savez combien toute morale, toute atteinte à la morale anti-argent est rare, est excentrique. Disons que dans les trois grandes pensées ou les trois grandes épistémées de la modernité, aujourd'hui, et ajoutons les chrétiens ou le christianisme, dans les trois cas, il y a une prise de position contre l'argent. L'argent est noté ou connoté comme un mal, comme une indignité. Et les philosophies qui assument une certaine morale de l'argent ou de l'indifférence à l'argent sont extrêmement rares. Pour ma part, je ne connais que Fourier, qui effectivement n'a pas participé à cette espèce de campagne anti-argent qui marque en général les grandes utopies. Le dernier point à examiner, c'est celui du pouvoir, du rapport au pouvoir. Ce qui caractérise toutes les idiorythmies, toutes les formes idiorythmiques sur l'athos, de l'ermite solitaire aux familles de ce que j'appelais les loriotes, n'est-ce pas, ceux qui habitent dans des lores, eh bien, ce qui caractérise tous ces idiorythmiques, c'est qu'ils sont toujours hors du contrôle des supérieurs. C'est là la véritable ligne de démarcation entre le cénobitisme et l'idiorythmisme, si vous voulez, c'est le fait que l'idiorythmique n'est pas soumis à un supérieur, à un pouvoir. Il est dans un état d'indépendance à l'égard du pouvoir représenté chez les cénobites par l'abbé. Enfin, au fond, la naissance du cénobitisme est intimement liée, beaucoup plus qu'à un genre de vie, beaucoup plus même qu'à une communauté de vie pratique, au fait que chez les cénobites, il y a le principe d'obéissance à un chef. Nous reverrons bien sûr ce problème. Tandis que chez les idiorythmiques orientaux en tout cas, jusqu'au mot athos compris, parce que nous verrons justement que dans les rares structures idiorythmiques occidentales, comme chez les béguines, il y a soumission à un pouvoir. Mais chez les idiorythmiques orientaux, il n'y a pas de pouvoir. Dans les premières structures idiorythmiques d'Égypte, par exemple, il y avait parfois, disons, une sorte de polarisateur, un individu qui polarisait un certain savoir, une certaine expérience, mais c'était un ancien qui faisait fonction de modèle et non pas de chef. Dans les structures modernes, on a dit que le cénobium, c'est-à-dire le couvent, reproduisait un type de pouvoir monarchique, tandis que les idiorythmiques représentaient ou, incarnaient ou accomplissaient un pouvoir collégial. En effet, dans les groupements idiorythmiques de l'athos, il y a les idiorythmiques forment une assemblée qui élit un collège de 6 membres qui est renouvelé par cooptation au décès de l'un d'eux. Ce qui rappelle d'ailleurs un projet de constitution des solitaires de Port-Royal et qu'on trouve aussi chez les moines bouddhistes. Donc un collège de 6 membres et puis pour les questions pratiques, c'est-à-dire pour l'exécution des tâches, des commissaires qui sont nommés par le collège pour un an, qu'on appelle les épitropes. Épitropes, nous allons aussi revoir cela. Je voudrais conclure sur l'athos. Je dirais que le seul principe stable de ces structures très mouvantes, c'est le rapport négatif au pouvoir. Et de nouveau, donc, nous réfléchissons sur ce problème. Il semble qu'il y ait, je dirais, un lien consubstantiel entre le pouvoir et le rythme. Ce que le pouvoir impose, avant tout, c'est un rythme. L'objet d'une imposition de la part du pouvoir, c'est toujours un rythme. Un rythme de toute chose, un rythme de vie, de temps, de pensée. Et par conséquent, la demande d'idiorythmie se fait toujours contre le pouvoir. Vouloir l'idiorythmie, c'est vouloir se soustraire. Si vous voulez, rappelons-nous l'exemple que j'ai donné de la mère et de son enfant. Elle marche à son pas et elle lui impose, sans s'en douter, à lui qui ne peut pas la suivre, son rythme de marche. C'est-à-dire qu'elle crée une disturbance de rythme. Et c'est là que nous voyons, une fois de plus, la différence qu'il faut faire entre le rythme et le rhythmos, tel que Benveniste l'a défini. Je dirais que l'idiorythmie, ça joue contre le rythme, au sens grossier du terme, et ça protège le rhythmos. Ça protège le rythme souple, disponible, mobile, la forme passagère, mais qui est tout de même une forme. Alors là, il faut penser à ce qui se passe en musique. En musique aussi, au fond, on pourrait dire qu'il y a le rythme et le rhythmos. Le rythme, c'est ce qu'on prend grossièrement pour justement le rythme musical, c'est-à-dire un battement métronomique. Ce rythme métronomique est évidemment du côté du pouvoir. Mais la musique comprend d'une façon un autre rythme qui n'est pas un rythme métronomique, qui est vraiment un rhythmos et qui est, disons, ce qu'on appelait en jazz, puisque c'est le jazz qui a mis au fond la notion au premier plan et qui l'a mise en scène véritablement, bien qu'elle existe dans toute musique, le swing. Je dirais que le rhythmos, c'est le swing. C'est-à-dire un rythme qui, certes, se loge dans des cases régulières, mais avec une sorte de souplesse et de balancement. En sorte qu'on pourrait dire, en faisant beaucoup d'ellipses, que la catégorie antinomique du pouvoir, c'est la musique. La musique, à condition de la définir non pas par le rythme, mais par le rhythmos. Je dirais que rhythmos ou swing, c'est le rythme en tant qu'il admet un plus ou un moins. C'est-à-dire le rythme en tant qu'il admet une imperfection, un supplément, un manque qui est donné dans l'expression idiorythmique par le mot idios, particulier. Particulier, ça renvoie précisément au supplément ou au manque du rythme communautaire. C'est, si vous voulez, rhythmos ou l'idiorythmique, c'est ce qui n'entre pas dans la structure ou y entrerait de force. Et il faut se rappeler le mot d'un musicien, qui est Casals, le violoncelliste, qui disait très justement, le rythme, bon, c'est énoncé sous une forme paradoxale, mais ce qu'il définit là, c'est en réalité non pas le rythme, mais le rhythmos. Et il disait, le rythme, c'est le retard. Et je trouve que c'est un mot très beau, parce que très juste. Faire de la musique, c'est non pas aller à une allure métronomique, c'est aller, si vous voulez, d'une façon régulière, rythmée, mais avec un supplément ou un manque, un retard, si vous voulez, ou une hâte légère qui définit le rhythmos. Or, seul un sujet peut retarder le rythme, c'est-à-dire seul un sujet peut accomplir le rythme, le rhythmos. Voilà pour l'article Athos. J'en viens maintenant à deux articles plus courts. Le premier, c'est toujours dans l'ordre alphabétique, concerne l'autarcie. Autarcie. Voici simplement, je veux simplement marquer la case, n'est-ce pas? Je ne vais pas en dire grand-chose, mais je pense que c'est une case qui doit être marquée. Dans la montagne magique, ce roman de Thomas Mann, donc, décidé de me servir. Le héros, qui s'appelle Hans Castorp, au début, c'est le début du roman, il va rendre visite à son cousin Joachim, qui est en Sana, qui se soigne en Sana, alors que lui, Hans Castorp, pour le moment, il n'est pas malade. Il va simplement lui faire une visite d'amitié. Il vient donc là quelques jours en visiteur, en touriste. Or, qu'est-ce qu'il se passe? Étant venu là en visiteur pour 15 jours, il y reste 7 ans. Il y reste 7 ans. Eh bien, de même aussi, dans le roman, on voit, une fois que Hans Castorp est installé dans sa condition de malade, l'un de ses oncles vient pour prendre de ses nouvelles, et l'oncle, bien qu'il ne soit qu'un simple visiteur, se sent à la fois terrifié et fasciné par la maladie. Tout l'entraîne à se découvrir malade et à rester. Et naturellement, l'oncle déguerpit brusquement, tellement il a peur de se retrouver malade, enfermé dans le sana. Je donne ça en exemple du fait qu'il y a une fascination du groupe et de tout groupe sur tout visiteur. Tout être qui visite un groupe aborde le groupe d'une façon, je dirais, toujours fanfaronne, selon une assurance d'indépendance, et peu à peu se sent fasciné et attiré par le groupe. Ceci est vérifiable dans les relations privées. Tout ce qui est perçu comme un groupe, comme une bande, attire par une sorte de vertige. Or, qu'est-ce qui fascine dans le petit groupe, dans la bande ou dans le sanatorium? Eh bien, je crois que c'est précisément l'état d'autarcie. En grec, autarkeia, ça veut dire suffisance, contentement, plénitude. Autrement dit, ça n'est pas le vide qui attire, c'est le plein, ou si l'on préfère, l'intuition du vide vertigineux de la plénitude de groupe. Donc l'autarcie, ça renvoie à une structure de sujet, à une petite colonie qui n'a besoin de rien d'autre que de la vie interne de ses constituants. Par conséquent, l'état autarcique, c'est une intradépendance, dépendance nulle. Enfin, le groupe est intradépendant d'une façon absolue, mais il est indépendant ou extra-dépendant, au moins absolu. Sa limite, un groupe, c'est où il se suffit à lui-même. Ce sont les limites de l'autosuffisance qui définissent le groupe. Et en effet, l'autarcie matérielle, par exemple, pour un groupe, si des groupes sont en état d'autarcie matérielle, elles en retirent un sentiment d'existence absolue. C'est le cas, par exemple, qui se passe dans un roman très célèbre de Jules Verne, 20 000 lieues sans fin, et sa petite comme un milieu autarcique. Tout le roman décrit la mer comme un milieu absolument autarcique. C'est-à-dire que Nemo n'a absolument besoin de rien d'autre qui ne soit dans la mer. Et par là même, cette autarcie définit le milieu du Nautilus comme doué de limites qu'on n'a pas besoin de dépasser. Il n'y a aucun recours à la terre, aucun recours aux hommes. La mer fournit absolument tout. Elle fournit des vêtements, elle fournit la nourriture, elle fournit l'éclairage, elle fournit le chauffage, elle fournit l'énergie, et même elle fournit des cigares. Elle fournit des cigares, puisqu'il y a certaines algues qu'on peut transformer en cigares. Et six groupes formés par le sous-marin qui engendrent naturellement l'autosuffisance, c'est-à-dire l'orgueil de Nemo, n'est-ce pas ? Nemo s'appelle personne, mais c'est pas seulement par un projet d'anonymat, c'est aussi parce que il n'a personne ou il n'est personne d'autre que lui-même. Pas bon, la définition de l'autarcie, c'est effectivement personne, personne d'autre que nous. Et les premiers ermites vivaient à d'autarcie, car ils raréfiaient tellement les besoins, et notamment la nourriture, sans doute ils échangeaient contre du pain, mais c'est vraiment presque, c'est une forme absolument minimale d'échange, et chez des, ce que j'appellerais des ultra-marginaux, il n'y avait même pas cet échange, puisqu'ils se nourrissaient uniquement d'herbes crues. Et c'est d'ailleurs à cause du danger d'orgueil que cette espèce d'autarcie engendrait chez les ermites, c'est à cause de ce danger d'orgueil que l'érémitisme a été combattu. Parce qu'on le prenait pour, effectivement, un très grand danger, un très grand péché de vanité et d'orgueil. Mais en même temps, c'est cette sorte d'autarcie qui attire et fascine. Alors, naturellement, pour en revenir à l'exemple de la montagne magique, le sanatorium, tel qu'il existait à cette époque-là et jusqu'à une époque récente, moins tel que personnellement je l'ai connu, c'est pour ça que je me laisse aller en parler, bien sûr, c'était un milieu absolument autarcique. C'était un milieu absolument autarcique qui s'est traduit par le fait que, par exemple, personnellement, si on permet ce souvenir, ce rappel d'une situation personnelle, j'ai été plusieurs années en sanatorium, au sanatorium des étudiants, dans la vallée du Grésivaudan, entre Grenoble et Chambéry, et j'y étais, disons en gros, pendant les années de l'occupation. Eh bien, le sanatorium, à ce moment-là, a vécu, je dirais, parfaitement isolé des problèmes énormes et cruels que posait au reste de la France l'occupation allemande. Certes, il y avait des incidences sur la nourriture, on mangeait peu et mal, mais à part ça, le sanatorium vivait en état complet d'autarcie, et par conséquent, en état d'abstraction par rapport au monde. Et il y a un point qui souligne ou qui rend cette autarcie sanatoriale extrêmement remarquable et troublante, c'est qu'il y a, en sanatorium, il y avait une sorte d'intradépendance des affects. C'est-à-dire que c'était un monde où il existait une plénitude affective. En sanatorium, par le fait même de la cohabitation, non seulement pendant des semaines, mais pendant des mois ou des années, on trouvait, je dirais, tous les affects qu'on voulait. On n'avait qu'à choisir le type d'affect dont on avait envie. Et il n'y avait aucun besoin du dehors. Une fois la structure, c'est-à-dire le vivre ensemble, lancée, elle durait à la façon d'une machine homéostatique. C'est-à-dire que ce qui est décrit, c'est la façon dont, une fois que le héros est inséré dans cette structure autarcique, il peut y passer sa vie entière. Et au bout d'un temps assez rapide, il n'a même plus envie d'en sortir. Il est pris dans cette espèce de machine perpétuelle, et d'ailleurs, c'est seulement la guerre de 1914 qui vient casser la machine pour Hans Castorp. Et c'est, je pense, cette espèce de spectacle de l'autarcie du groupe qui fascine et attire, et en même temps repousse et attire le visiteur. Car dans le sanatorium décrit par Thomas Mann, il y a certes une fascination de la mort, enfin j'y reviendrai à propos d'un autre article, mais en réalité, c'est plutôt, si vous voulez, une fascination de l'éternité, ou en tout cas de la perpétuité. Le sanatorium fascine non pas parce qu'on y meurt, ce n'est pas au terme d'une perversion qu'il fascine, mais parce que, au fond, il représente un lieu éternel. Il représente la donnée même d'une éternité, d'une perpétuité, et que cette perpétuité est produite en quelque sorte par la structure autarcique du sanatorium. Voilà pour l'autarcie. J'en viens maintenant à un autre article, assez court aussi. Cet article, vous allez voir pourquoi, a pour titre le mot « banc », B-A-N-C, un banc. Je voudrais en effet vous rapporter ou vous signaler la vision d'un vivre ensemble qui semble parfait, comme s'il réalisait la symbiose lisse d'individus cependant séparés. Et cette vision d'un vivre ensemble parfait, c'est celle du banc de poissons, dont on nous dit qu'il est un rassemblement, je cite, n'est-ce pas, des encyclopédies, mes sources ne vont pas très loin, souvent elles ne remontent pas pour ces choses-là au-delà du dictionnaire, le banc de poissons qui est un rassemblement cohérent, massif, uniforme, de sujets de même taille, de même couleur et souvent de même sexe, orientés dans le même sens, équidistants, avec mouvements synchronisés. Voilà ce qu'est le banc de poisson. Alors, évidemment, petite précaution méthodologique, je pense que vous serez tous d'accord, il ne faut jamais faire ce que j'ai l'air de faire, mais vous allez voir qu'en fait je ne le fais pas, j'espère que je ne le fais pas. Mais disons qu'il ne faut jamais comparer sérieusement, c'est-à-dire en y croyant, des traits venus de l'éthologie animale, des mœurs des animaux, et des traits appartenant à la sociologie humaine. Il ne faut jamais induire sérieusement d'un ordre à l'autre, parce que entre les deux, tout de suite première différence, il y a tout simplement cette chose à la fois mince et énorme, le langage. Sans doute, entre les deux ordres, l'ordre animal et l'ordre humain, il y a des parallélismes que les biologistes et surtout la tendance nouvelle actuelle de la recherche qui consiste à, comment dirais-je, à tracer un espèce de terrain commun à la biologie et à la culture. Enfin, il est certain qu'il y a, on connaît bien et on a souligné de nombreux parallélismes entre l'animalité et l'humanité. C'est, disons, biologique, de la même manière, disons, sur l'axe de l'intelligence, par un ordre plus réussi, entre guillemets, qui est précisément réussi parce qu'il est marqué par une aptitude au vivre ensemble. Dans l'ordre des invertébrés, ce sont les insectes qui représentent la culmination de la série avec des sociétés d'insectes, vous savez, des sociétés animales, d'insectes, d'invertébrés, et dans les hominés, ce sont les hommes parce que précisément, ils ont mis au point, enfin, plus ou moins bien, un statut de vivre ensemble. Donc les deux séries ont effectivement, je dirais, la même hiérarchie. Mais malgré tout, ça n'est pas comparable, parce que dans les sociétés d'insectes, le vivre ensemble, les sociétés de fourmis ou d'abeilles, etc., le vivre ensemble est fondé sur une série de comportements innés. Tandis que dans les sociétés d'hommes, l'intelligence de l'homme n'est pas spécifique, c'est-à-dire elle n'est pas innée quant à l'espèce, elle reste toujours individuelle. Et par conséquent, les liens du vivre ensemble, la structure du vivre ensemble, sont le plus souvent appris. Le vivre ensemble est appris chez l'homme, et c'est cet apprentissage qu'on appelle la culture. La preuve de cette différence est donnée par l'espèce d'apologue suivant. Autant que je me rappelle, si vous imaginez un cataclysme mondial tel qu'il supprime, qu'il détruise toutes les abeilles, toutes les ruches du monde, en laissant subsister uniquement une reine et un faux bourdon, en quelques semaines, il sera reproduit des ruches, des abeilles, des ruches qui fonctionneront au bout de quelques semaines exactement comme avant. Parce que la structure de la société des abeilles, elle est innée, elle n'a pas besoin d'être apprise de nouveau. Tandis que si vous faisiez la même opération, tout à fait science-fiction, sur l'humanité, c'est-à-dire une catastrophe qui détruise absolument tous les hommes de la Terre, sauf, disons, deux petits bébés, à supposer qu'ils puissent survivre, d'ailleurs. Bien, ces deux petits bébés, naturellement, c'est une imagination, ces deux petits bébés depuis les premiers hominiens. C'est-à-dire que rien ne serait acquis et il faudrait que ces deux bébés qui croîtraient peu à peu refassent tout ce que nos ancêtres ont fait depuis des milliers et des milliers d'années. Qu'ils réinventent le feu, qu'ils domestiquent les animaux, etc., etc., jusqu'à arriver peut-être à des cours au Collège de France, mais ça prendrait certainement très très longtemps. Par conséquent, l'ordre animal, enfin l'éthologie, qui est évidemment une science passionnante, nous fournit, et c'est ainsi que je le prends, cela peut nous fournir des visions, comme la vision du banc de poissons, mais ça ne nous fournit pas des raisons. C'est là vraiment le cas de dire que comparaison n'est pas raison. Donc ce que je vous présente ici avec le banc de poissons, ça n'est pas du tout une comparaison, c'est une vision. Et cette vision du banc, je l'oppose à une autre vision qui est devenue tellement banale qu'on pourrait dire que c'est un mythe ou une mythologie, disons, de notre époque. C'est le mythe de la société fourmilière. Nous allons, enfin, l'humanité court le danger de devenir une société fourmilière. Mais j'oppose la société fourmilière et la société banc de poissons. Pourquoi ? Parce que dans la société fourmilière, ce qui est visé, ce qui est craint, ou ce qui est quelquefois esquissé, c'est, disons, un dressage bureaucratique, c'est-à-dire un dressage de fonction, un dressage généralisé et universalisé. Il faut tout de suite noter d'ailleurs que la société fourmilière paraît absolument indépendante des régimes. Nul régime ne peut être, comment dirais-je, dénoncé comme étant spécifiquement lié à un risque de société fourmilière. Je dirais que dans les sociétés dites capitalistes, la culture de masse produit une esquisse de la société fourmilière, n'est-ce pas ? La société fourmilière, c'est un problème de culture, ça n'est pas un problème, disons, de régime, ou ça n'est pas directement un problème de régime. La télévision, je dirais que c'est un appendice formique. C'est une autre vision, car dans le banc, tel que j'en ai fait la description, il s'agit de translations collectives, synchrones et brusques, de goût, de plaisir, de mode, de peur. Et le banc est donc pour moi, en tout cas, puisque c'est une vision, je peux assumer sa subjectivité, le banc est une vision beaucoup plus terrible que la fourmilière. Je dirais que la fourmilière produit la vision d'une égalisation des individus, pas d'une mécanisation des fonctions sociales, tandis que le banc produit pour moi la vision d'une annulation des sujets, d'un dressage des affects entièrement égalisé. Et ça n'est pas la même chose que d'égaliser les individus et d'égaliser les sujets. Peut-être même que le grand problème qui se débat actuellement à bien des niveaux, c'est comment décrocher le sujet de l'individu. Et comment la politique peut-elle, préserver le sujet sans forcément défendre l'individu. En effet, le banc, vous allez voir pourquoi c'est une vision terrible et pourquoi ça concerne l'idiorythmie. Je n'ai pas fini ma description du banc de poisson. Il faut que j'y ajoute la façon dont les bancs de poisson, n'est-ce pas, les bancs de harengs par exemple, font l'amour entre eux. Quand le moment de la fraie est venu, qu'est-ce qui se passe? Il paraît que on trouve des bancs de mâles superposés aux bancs de femelles. Et à ce moment-là, les œufs montent ensemble et traversent le banc des mâles qui expulsent leur laitance. Vision, j'ose qualifier de terrible, puisque précisément, elle assure d'une façon impeccable la reproduction de l'espèce sans aucun contact entre ses sujets. Par conséquent, on a là la vision d'une espèce pure sans sujet. Et je dirais que ceci pointe ce que j'appellerais un paradoxe érotique, puisque dans le banc, les corps, ce sont des corps de harangue, mais enfin ce sont des corps tout de même, les corps sont serrés et cependant ils ne font pas l'amour. Ils sont serrés, ils se touchent et cependant ils ne font pas l'amour. Et de là, cette idée que plus l'idiorythmie est fort close, parce qu'évidemment dans un banc de poissons, il n'y a aucune idiorythmie. C'est la description que je vous ai donnée au début. C'est la forclusion totale de toute idiorythmie. Alors, plus l'idiorythmie est fort close, plus Eros est chassé. Et par conséquent, je dirais que l'idiorythmie est en quelque sorte une dimension constitutive d'Eros. Et qu'il y a un rapport proportionnel entre la mouvance, la liberté des rythmes particuliers, l'aération, les distances, les différences du vivre ensemble d'une part, et d'autre part, la richesse et la plénitude de l'éros. Ce qui amènerait, mais je vais très vite naturellement, ce sont des élucubrations comme vous le voyez, ce qui amènerait à imaginer peut-être d'une façon plus, à la fois plus visionnaire et plus théorique, peut-être plus romanesque, une sorte d'érotique de la distance. Une érotique de la distance pour laquelle d'ailleurs on retrouverait peut-être certaines idées ou certaines considérations ou certains principes du Tao. Mais pour ce qui est de l'idiorythmie, je dirais qu'on peut la décrire ainsi ou la définir ainsi. L'idiorythmie, ce serait la protection du corps en tant qu'il se maintient distant pour sauvegarder le prix même du corps, à savoir son désir. Voilà pour le banc. Et maintenant, nous allons en revenir à des considérations plus historiques, mais c'est le va-et-vient de cette espèce de dictionnaire, hein? Tantôt des élucubrations, tantôt des informations. Alors, je veux dire tout de même quelques mots des béguinages. Alors, je dirais que les béguinages, les réunions de béguinage, les béguinages ou le problème du béguinage, cela nous concerne. Pourquoi ? Parce que c'est... les béguinages, disons que c'est une certaine tentative occidentale pour instituer un espace idiorythmique dans la catholicité. Or, la catholicité a été en général très hostile à l'idiorythmie et très favorable au monachisme purement cénobitique. Par conséquent, nous pouvons voir là qu'est-ce que l'Église catholique a fait d'un mouvement qui, en principe, devait ou voulait être idiorythmique. Et nous verrons en même temps les différences qu'il y a entre ce mouvement idiorythmique à l'intérieur de la catholicité et l'idiorythmie orientale atonite que nous avons déjà décrite. Un mot d'histoire, les béguinages, donc phase d'épanouissement, disons 13e et 14e siècle, et au sens normatif et normal du terme, je précise parce que nous allons le voir tout à l'heure, à l'origine, il y avait une inflexion suspecte, hérétique et marginale du terme béguin. Mais quand c'est devenu, disons, une institution normalisée, les béguinages, qu'est-ce que c'est ? Ce sont des associations pieuses urbaines, soit c'est un phénomène urbain toujours, des associations pieuses urbaines, de personnes appliquées à une vie religieuse, s'écartant de l'ordinaire et portant un costume particulier. Alors, ce sont essentiellement des réunions de femmes, les béguines, mais au début, il y a eu aussi des béguini, B-E-G-H-I-N-I, des béguins, je reviendrai un peu là-dessus tout à l'heure. Donc, au XIIIe et au XIVe siècle, c'est une institution qui est florissante, surtout aux Pays-Bas, mais aussi en France, en Allemagne et en Espagne. Au XVe et au XVIe siècle, l'institution disparaît en Hollande et partiellement en France. Les derniers béguinages ont été supprimés en France à la Révolution française. Mais en même temps que les béguinages disparaissent de Hollande et de France, ils se renforcent en Belgique avec une discipline plus sévère. Et aujourd'hui, c'est une institution essentiellement belge. On dit, mais peut-être ces chiffres feront-ils l'objet d'observations de votre part, qu'il y a 12 béguinages en Belgique, qu'il y a à Gand un grand béguinage et qu'il y aurait en tout 400 béguines. Toujours le même plan, après cette très rapide diachronie, un mot sur l'espace idiorythmique. L'espace d'habitation. Eh bien, le principe des béguinages est à peu près le même que celui des lores du mont Athos. C'est le principe même de l'espace idiorythmique qui est, disons, opposé à celui des phalanstères et des couvents et des communautés. C'est-à-dire que c'est un espace clos à l'intérieur duquel il y a de petites maisons, des ermitages de deux ou trois personnes, qu'on appelait en latin, du Moyen-Âge, des curtes, C-U-R-T-E-S. Et ces petites maisons, ces curtes, étaient groupées autour d'une église, et en plus, pour qu'il y ait béguinage, il fallait qu'il y ait d'ailleurs, donc non seulement une église, mais aussi un hôpital et une eau courante. Il y avait donc, disons, dans certaines villes, de véritables quartiers. C'était un quartier. Il y avait des quartiers béguinaux qui constituaient d'ailleurs des paroisses séparées, un quartier clos par de hauts murs et avec des portes ouvertes seulement le jour. Et le béguinage a son propre cimetière. Un mot sur le mode de vie. Le principe est que le béguinage se situe, la vie du béguinage, les béguines se situent entre la vie religieuse et la vie du siècle. Mais les règles sont beaucoup plus strictes que dans l'idiorythmie orientale. N'est-ce pas? Dans l'idiorythmie orientale, j'ai pu dire qu'il n'y avait pas à proprement parler de règles, mais simplement, disons, des indications. Tandis que dans les béguinages catholiques, il y a véritablement une règle. Il y a des inflexions monastiques qui sont très fortes. Et il y a, disons, les trois grands principes de l'institution cénobitique sont imposés dans le béguinage, c'est-à-dire, premièrement, la stabilité, l'obligation de résidence, donc toute défense de vagabondage ou d'errance, la stabilité. Deuxièmement, la chasteté non pas à vie, car ils ne font pas de vœux, les béguines ne font pas de vœux. Chasteté, non pas à vie, mais durant le séjour, et ça, c'est un thème très important. On a appelé les béguines, d'un nom latin, on les appelait les continentes, et qui était, vous le savez, l'un des grands principes, l'une des grandes marques des albigeois. Et le troisième principe, c'est là où il y a une très grande différence avec l'idiorythmie orientale, c'est l'obéissance à une supérieure, qu'on appelait les supérieurs de béguinage, qu'on appelait des magistrés ou des martés, des martes, avec au-dessus encore une maîtresse générale qu'on appelait la grande dame, donc une hiérarchie de pouvoir. Et d'autre part, les béguines avaient donc, je l'ai dit, un costume qui était celui des femmes pauvres, c'est-à-dire la robe noire et la coiffe blanche. Alors naturellement, à côté ou avec ces inflexions cénobitiques, monastiques, régulières, c'est-à-dire soumises à une règle, il y avait des traits séculiers. Il n'y avait pas de vœux de religion, il y avait des visites et des sorties, mais qui étaient très réglementées, très surveillées, et il n'y avait pas d'heures canoniales, c'est-à-dire il n'y avait pas de ces heures qui rythment la vie du moine en couvent. Mais il y avait tout de même l'obligation, le timing, si vous voulez, de dire sept pater. Donc une vie presque monastique avec une règle très austère, et l'accent idiorythmique est simplement dans le timing qui est un peu plus léger, dans la licence de sortie qui est pourtant parcimonieuse, et dans le fait que ça n'est pas un engagement à vie. Mais c'est une idiorythmie très raide qui est marquée fortement par la loi, et je dirais que de notre sens à nous, c'est une idiorythmie paradoxale puisqu'elle tente de s'exercer sous le contrôle d'un pouvoir, ce qui est la négation même de l'idiorythmie. Quelques données sociales et économiques, sans laquelle aucune définition d'institution ne serait valable, on dit que deux conditions historiques ont peuplé les béguinages au Moyen-Âge. La première, c'est le fait que les croisades, en éliminant les maris, ont fait un surcroît de veuves, un excédent de femmes. Et ces femmes, souvent des dames aisées, se sont retirées, elles ont vécu ensemble, et elles ont constitué ensemble un groupe qui, en tant que groupe, protégeait des sujets défavorisés. C'est, disons, le principe absolument banal des maisons de retraite. La deuxième donnée historique, c'est que c'est la situation précaire de la classe ouvrière urbaine qui, au Moyen-Âge, très souvent, se sentant menacée de beaucoup de dangers, cherchait abri près des monastères. Et de là, cherchait une intégration dans un organisme de protection de caractère religieux. Et c'est ce qui explique qu'effectivement, dans les béguinages, on va trouver à la fois des individus riches ou aisés et des individus très pauvres. D'où trois types de communautés institutionnellement définies. Premièrement, des femmes les plus riches, les femmes qui ont des revenus, et deuxièmement, des communautés de femmes pauvres qui vivent sur donation, qui serait au fond l'équivalent des bourses universitaires, mais la mendicité est également interdite. De même que quand on est boursier, on n'a pas le droit d'avoir un emploi en plus. Principe, je crois. Et troisièmement, alors le groupe des femmes pauvres sans donation, à qui la mendicité est permise, et qui peuvent entrer au service d'une béguine riche, c'est ce qu'on a vu pour le mont Athos, ou qui peuvent travailler manuellement. Et bon, les béguines qui travaillaient étaient spécialisées dans le lavage, dans le blanchissage et dans la fabrication des dentelles quand l'importation des laines anglaises a été arrêtée. Et maintenant se pose pour finir toujours le même problème, le problème du pouvoir ou du rapport d'un groupe idiorythmique au pouvoir. Et c'est toujours le même problème, la tension entre le pouvoir et la marginalité. L'origine des béguinis, alors là je le mets au masculin pour commencer, c'est une origine assez obscure. D'ailleurs le mot lui-même a plusieurs étymologies. Il semble qu'au début, c'est-à-dire disons vers la fin du XIIe siècle, les béguinis, les béguins ou les bégards si vous voulez, soit le nom des albigeois de Cologne, albigensis. Et c'était un mot qui, paraît-il, là au début, employé avec une connotation très forte d'injure. Béguini, ça voulait dire hérétique. Et en effet, les béguins ou bégards avaient beaucoup des traits des albigeois. L'exaltation de la continence, l'horreur du serment, la coulpe publique et des tailles, mais vous savez bien que dans ces prescriptions, des choses qui nous paraissent très importantes se mêlent à égalité avec des choses très futiles, nous retrouvons d'ailleurs ce trait, c'est une chose importante de la vie monastique ancienne, que le moine devait dormir, ne devait pas dormir tout nu. Une chose qui est toujours notée dans les règles monastiques. C'est un article important des règles pieuses et c'est un avis qui est donné à ceux nombreux aujourd'hui qui dorment sans pyjama et qui ne savent pas à ce moment-là que ils commettent un acte qui rencontre un grand problème historique. Alors, de là, la forme féminine des Béguins, ça a été, bien sûr, l'accent mis sur la chasteté, et c'est pour ça qu'on les a appelés aussi, je l'ai rappelé, des continentes, n'est-ce pas ? Des continents, continentes, je ne sais pas comment dire. C'est-à-dire des femmes chastes. Il faut rappeler que, historiquement, la chasteté est le tout premier vœu en date du monde chrétien. À côté des autres vœux, obéissance et pauvreté, disons, les autres vœux sont relativement postérieurs. Mais le vœu de chasteté a été présent dans les toutes premières églises des temps apostoliques, dont la fonction de ces églises, du temps des apôtres, était de susciter des vierges, n'est-ce pas ? Donc la chasteté a été le premier vœu en date. Donc la forme féminine des Béguins, c'était des Béguines, les continentes. Et aussi en rapport donc avec les Albigeois, dont c'était un principe très important. Et puis cette origine maudite, hérétique, s'est effacée, il y a eu normalisation, et on est venu donc à ces associations pieuses de femmes que nous avons vues, mais à ce moment-là, bien sûr, puisque ça s'est normalisé, ça veut dire que l'Église, en tant que pouvoir, a mis la main sur ces marginalités. Elle a mis la main de deux façons. Premièrement, en temps antérieur, nous l'avons vu, et deuxièmement, en adjoignant à toute communauté de béguines un prêtre des servants qui a été d'abord cistercien et ensuite dominicain ou franciscain. Et troisièmement, par imposition du pouvoir de l'Église sur ces marginaux, ces marginales, par la tendance des béguines, des pensionnaires, pour se mettre à l'abri de tout soupçon d'hérésie, précisément, à se faire tertiaire, quoi, ou à suivre la règle de Saint-Augustin. Enfin, la règle de Saint-Augustin, qui, nous en reparlerons aussi, qui est une règle pour semi-laïque. Je conclue. Vous voyez les différences visibles avec l'idiorythmie orientale, celle de Saint-Antoine ou celle du Mont Athos, et différences qui recèlent la marque du légalisme romain. Là, nous sommes dans le monde romain, catholique et romain. Premièrement, l'austérité, le poids de la règle, le poids de la loi. Deuxièmement, la hiérarchie et le contrôle par le pouvoir. Et troisièmement, peut-être que tous ces béguinages, ou la vie dans ces béguinages, étaient davantage centrés sur la charité, sur l'entraide sociale, d'où la nécessité que ça soit rattaché à un hôpital, que sur la mystique. Il s'agissait donc, pour ces béguinages, d'une idiorythmie très domestiquée. Bon, mercredi prochain dans la salle 8, je dirai un mot pour commencer de la bureaucratie.